Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Mission accomplie et fin mission pour le souverain pontife François qui a quitté il y a plus ou moins une heure maintenant l'aéroport de Ndjili pour Djouba au Soudan du Sud. En ouverture de ce journal, Radio Okapi vous fait un nouveau point sur ce qu'a été ce séjour, du moins pour ces dernières heures quinoises. Autre nouvelle d'actualité en ce midi, ce sont ces engins explosifs enfouis dans le sol déniché à Buramba, territoire des Rutshuru. D'autres sont également signalés dans le groupement Rugari. Au total, c'est plus ou moins 11 explosifs qui seraient laissés ainsi comme piège par les terroristes M23, estiment certaines populations qui en appellent aux démineurs. Nous parlons enfin de ce journal avec l'aumônier des jeunes de l'église catholique après la conférence épiscopale nationale du Congo comme invité ce midi. Père Jean-Marie Roubacaré réitère la recommandation du pape François aux jeunes pour rejeter les antivaleurs. Tout de suite, nous vous déroulons les autres contours de l'actualité congolaise, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Le pape François a quitté ce vendredi la RDC pour le Soudan du Sud après un séjour à Kinshasa. Pendant son séjour, il a eu des échanges avec le président de la République, les clergés catholiques. Il a animé la messe à l'aéroport de Ndolo et rencontré les jeunes au stade des martyrs. Ce vendredi matin, il a échangé avec les évêques de la SENCO. Il les a invités à continuer à faire entendre leur voix prophétique pour réveiller les consciences. Mais il ne s'agit pas d'une action politique. Nous sommes des pasteurs et des serviteurs du peuple, pas des hommes d'affaires, a insisté le pape François aux évêques de la RDC. En tant qu'église, nous avons besoin de respirer l'air pur de l'évangile, chasser l'air pollué de la mondanité, garder le cœur juvénile de la foi. C'est ainsi que j'imagine l'église africaine et c'est ainsi que je vois cette église congolaise. Fin de citation. Il a par ailleurs déclaré avoir passé des jours agréables en RDC qui, avec sa grande forêt, représente le cœur vert de l'Afrique, un poumon pour le monde entier, a-t-il souligné. L'aumônerie nationale des jeunes après la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO appelle les jeunes congolais à faire un examen de conscience afin de rejeter les antivaleurs. L'appel intervient après la rencontre hier entre le pape François et les jeunes de la RDC. Le message du souverain pontife à la jeunesse congolaise a été axé, entre autres, sur la prière, la communion et la lutte contre la corruption. Écoutons plutôt l'aumônier national père Jean-Marie Roubacaré au micro de Paul Matendo.
Quand tu nous as parlé de cinq doigts et la valeur de cinq doigts dans la vie de l'homme, j'ai compris que l'essentiel c'est d'être unis, soudés et réconciliés aussi, sans oublier la force de la prière, sans oublier aussi l'acceptation de tout un chacun, sans oublier aussi que l'union fait la force. Au niveau de l'aumônerie nationale des jeunes, nous avons déjà des thèmes sur la lutte contre les antivaleurs. Il nous a parlé aujourd'hui de la corruption d'une façon forte. Il parlait de la corruption et de l'honnêteté. On ne peut jamais être honnête si on est corrompu. Si on est corrompu, on n'est pas sur la voie de Dieu. Voilà les mots qu'il a dit. Et moi, je crois qu'au niveau de la jeunesse, il faut que nous leur présentions la réalité de notre pays, les situations de corruption qu'eux-mêmes connaissent, qu'ils peuvent aussi décrire, et à la fin dire, faisons l'autocritique. Et c'est à base de l'autocritique qu'eux-mêmes vont dire, je renonce à ceci ou à cela.
Nord Kivu, trois engins explosifs ont été découverts par la population de Buramba hier jeudi. C'est dans le groupement Binza, territoire de Rutshuru. Ces engins de la mort sont enfouis en sous-sol vers l'église catholique de Kanzanza. D'autres seraient aussi découverts dans le groupement Rugari, affirment les habitants qui parlent d'au moins 8 engins explosifs abandonnés. Les habitants pensent que ces bombes sont des pièges laissés par les combattants du M23 lors de l'occupation de cette zone. Un notable de Rutshuru appelle à une action des organisations des déminages, car dit-il, ces bombes représentent un grand danger pour la population locale. Aimé Mboussa Mukanda.
Dans les endroits contrôlés par les rebelles terroristes du M23, plusieurs bombes sont visibles, dont trois à Buramba. Cette position avait été occupée par les rebelles du M23 et ils ont abandonné ces bombes-là lorsqu'ils ont quitté cette zone. Nous signalons aussi au gouvernement que d'autres bombes ont été visibles à Rugari. Une bombe est piégée aussi à Kisharo. Et d'autres effets de guerre sont abandonnés par le M23 partout où ils contrôlent. Nous rappelons les organisations qui travaillent dans les déminer les bombes, qu'il est grata de voir comment venir de piéger ces bombes qui sont à Buramba, puisque la zone de Buramba est contrôlée par des Mai Mai. Là-bas, il n'y a pas de M23. Ils ont quitté là, ils sont à 5 km à Kisharo. Pour dire, les AC qui collaborent avec les M23 peuvent nous aider à aller dépiéger ces bombes, vu que la MONUSCO a quitté la zone et ces bombes représentent un danger pour notre population. Des chèvres même peuvent dépiéger cette bombe et causer des dégâts énormes pour la population de Kanzanza Buramba.
À Bijombo, dans les hauts plateaux du territoire d'Ouvira dans le sud Kivu, une personne a été tuée par balle et des vaches estimées au nombre de 39 ont été emportées. C'est le bilan d'une attaque mercredi dernier par des présumés combattants tuiranéos à Mbundamo, un petit village de la localité de Katanga à 40 km au nord de Bijombo centre. Le chef du groupement de Bijombo, Tete Amissi, confirme ce bilan, ajoutant qu'un autre civil, un bouvier, est encore introuvable, comme le dit Fiston Goma.
Les vaches volées appartiennent à un éleveur, membre d'une communauté locale. D'après le chef de groupement de Bijombo Tete et Amissi, ces vaches volées ont été dirigées vers Mugeti, Muramvya et Nyakirango, des localités où sont basés les combattants des groupes Tuiranéo depuis leur retrait de la forêt de Bijabo. D'autres sources locales affirment que certaines vaches ont été intentionnellement abattues par les agresseurs pour sabotage. L'incursion des Tuiranéo s'est passée dans ce pâturage du bétail, le même jour où trois femmes membres d'une autre communauté locale ont été libérées par les FRDC basés dans la zone. Ces femmes avaient été prises lors d'une embuscade menée par des combattants Tuiranéo contre les FRDC, dont un élément FRDC a été tué. Elles étaient accusées d'avoir approvisionné les groupes Tuiranéo en rations dans les cachettes des Tuiranéo de Namalama. Les FRDC ont renvoyé ces femmes dans leur village de Shakira, à 25 km au sud de Bijombo centre. De son côté, le commandant des FRDC à Bijombo, le colonel Faustin Balizani, déplore cette attaque contre les propriétaires de la ferme des vaches abattues lâchement par 8 éléments Tuiranéo et près de 88 vaches emportées. Les assaillants se sont retirés, selon lui, vers Magunda où est basée la task force de l'EAC. Il appelle les deux communautés locales, Bafuliru Banyamulenge, à dialoguer pour éviter les cas de vols récurrents de bétail dans la zone. D'Ouvira Fiston Goma Mayaba, la radio Kapi.
Après avoir écouté par le pape François les victimes des atrocités de l'Est, espèrent que le séjour du pape en RDC est le début de la fin de la tragédie qui frappe l'Ituri depuis plus de deux décennies. Elles l'ont fait savoir hier jeudi 2 février au travers d'une conférence de presse organisée par la plateforme culturelle de la communauté iturienne de Kinshasa au centre protestant. Reportage de Jeff Ngoy.
L'abbé Guy Robert a été attaqué à sa paroisse à Fataki. Il a reçu des coups de machette, notamment à la tête et aux mains. Le coordonnateur de la commission justice et paix de l'Ituri, l'abbé Chrysanthe Djabou, parle au nom des personnes mutilées et plaide pour la paix et le pardon.
Moi, je voudrais que tout le monde soit sensibilisé à la paix. Je ne voudrais pas non plus susciter l'esprit de vengeance. En Ituri, il y a violence. Il y a des mutilations des personnes. Mais j'aimerais que vous sentiez l'ampleur de ce qui se passe là-bas par les témoins que je suis.
Qu'est-ce qui est à la base de cette tragédie? Réponse avec un notable de l'Ituri.
Lorsque les gens prennent des armes lourdes, lorsque les groupes de gens s'organisent et tuent même des grands officiers de l'armée, ce ne sont pas des communautés. Il n'y a que les gouvernements qui peuvent imposer la paix.
Président de la communauté iturienne de Kinshasa, Félix Kabouise, évoque quelques statistiques.
Les victimes des atrocités de l'Ituri qui ont cours depuis fin 2017, ce sont près de 20 000 tués, plus de 2 millions de déplacés disséminés dans plus de 60 camps, plus de 500 000 réfugiés dans les pays voisins, une terrible catastrophe humanitaire dont les victimes peinent à être prises en charge.
Après leur rencontre avec le pape, les survivants des atrocités de l'Ituri ont été instruits par l'Église de ne plus s'exposer dans les médias.
Dans la province du Maniema, le coordonnateur provincial de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo dénonce l'abattage des hippopotames dans le territoire de Kasongo. Jean-Claude Sefou Bouchiri pointe du doigt accusateur les Mai Mai Malaika. Selon lui, en l'espace de 10 mois, son organisation a enregistré 10 hippopotames tués et vendus à la population pour consommation. Jean-Claude Sefou Bouchiri plaide pour l'implication des autorités pour arrêter cette pratique considérée comme une menace de disparition de ces mammifères et un espace totalement protégé. Jean-Claude Sefou Bouchiri, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous venons par l'occasion manifester notre désapprobation suite au moment difficile que traversent les hippopotames vivant dans les eaux du fleuve Congo, précisément dans les villages côtiers de Kassou et Kibimbi, groupement qui est ce chefferie de Wagenya et à Benyenyami, groupement Lugulu chefferie de Wazura, c'est dans les territoires de Kasongo. Cette situation est due à la barbarie phonique sans pareil, orchestrée par les miliciens Maïmaï Malaïka qui opèrent en toute quiétude cette sale besogne. Depuis le mois de février de l'année passée, 10 hippopotames ont été abattus et leur viande vendue aux différents marchés des territoires de Kasongo et Kabambari. Notre crainte s'ajoute aussi du fait qu'au mois d'octobre 2022, ces bêtes sont sorties plusieurs fois de leur milieu naturel pour venir s'approvisionner dans les champs des communautés côtières du fleuve Congo, dans les groupements Kansaki et Kanyon et à Kasongorive, dans la chefferie de Wagenya, au grand risque d'être abattus par la population qui ne maîtrise pas la loi relative à la protection de l'environnement. C'est pour cette raison que nous mettons en témoin l'opinion nationale qu'internationale que, si rien n'est fait, cet animal classé parmi les animaux totalement protégés par la loi et interdit dans la chasse risque de disparaître. Voilà pourquoi nous demandons l'implication directe de toutes les autorités afin de mettre fin à cette délinquance phonique et sauver la vie de cet animal en détresse.
Contacter le ministre provincial de l'Environnement dit ne pas être au courant de cette situation. Toutefois, Maître Alexis promet de s'investir avec ses services et s'il s'avérait que c'est vrai, le gouvernement provincial va prendre toutes les dispositions pour stopper cette pratique. Sud Kivu, hier jeudi 2 février, c'était la journée mondiale des zones humides. Une journée consacrée à la sensibilisation du grand public aux zones humides. Elle part de l'anniversaire de la signature de la convention de Ramsar en Iran par 157 pays le 2 février 1971. Il est urgent de restaurer les zones humides, c'est le thème de cette journée en cette année 2023. Thème choisi après le constat que les zones humides continuent de disparaître partout dans le monde alors qu'il s'agit d'un des écosystèmes les plus utiles pour répondre aux crises climat, aux biodiversités que nous traversons actuellement. Alors pour Josué Aruna, président de la Société civile environnementale du Sud Kivu, il est plus qu'important de restaurer les zones humides. Il est au micro de Rachel Kiesembangu.
La zone humide, c'est tout espace inondé d'eau, de manière permanente ou temporaire. Et ça peut être artificiel, c'est-à-dire une zone humide créée, un étang piscicole, une zone irriguée, un puits d'eau, ainsi de suite. Et pourquoi cette journée? C'est parce que la convention de Ramsar qui incarne cette journée internationale des zones humides a été mise en place dans le cadre de revitaliser les rôles que jouent les écosystèmes humides dans le monde. Aujourd'hui, on reconnaît que sans les zones humides, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire, si nous manquons les zones humides, nous n'aurons pas accès à l'eau potable. Si nous n'avons pas les zones humides, on ne va pas avoir tout ce que nous avons comme arsenal d'eau douce. Sans les zones humides, on ne peut pas avoir la biodiversité. C'est-à-dire, les zones humides constituent en elles-mêmes la maternité de la biodiversité. Sans les zones humides, on ne peut pas avoir le développement dont nous nous attendons. Parce que si nous avons les courants aujourd'hui, c'est parce que les zones humides nous ont donné l'eau douce.
Avant de passer à la page internationale, 9 nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont été investis par ordonnance présidentielle depuis le 31 janvier de cette année. Ils remplacent ainsi l'ancienne équipe qui avait largement dépassé son mandat. Ces 9 animateurs de la CNDH sont M. Sapou Paul, Mme Bamba Joël, M. Kimbom Boudido, M. Kalindi et Dieudonné, M. Eyale Bossela, Mme Gongo Foura, M. Chibanda Jean-Marie, Mme Kapinga Gisèle et le Cogna Paulette. En attendant leur prestation de serment incessamment devant la Cour constitutionnelle, quelle est la mission qui les attend? Jeff Ngoy nous en parle.
Le respect de la dignité et de la valeur humaine constitue la substance des droits de l'homme. Institution d'appui à la démocratie, la CNDH est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Sa loi du 21 mars 2013 portant sur l'organisation et fonctionnement dispose qu'elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Dans l'accomplissement de sa mission, elle n'est soumise qu'à l'autorité de la loi. Elle exerce son action à l'égard des personnes physiques ou morales, tant publiques que privées, se trouvant sur le territoire national ou à l'étranger. Cette action s'étend aux victimes et auteurs des violations des droits de l'homme en RDC, également aux Congolais se trouvant à l'étranger victimes de ces violations. La loi lui attribue aussi la compétence d'enquêter notamment sur tous les cas de violations des droits de l'homme, orienter les plaignants et victimes et les aider à rester en justice sur toutes les violations avérées, procéder à des visites pénitentiaires.
Actualité internationale.
Le Soudan et Israël se sont mis d'accord jeudi pour la normalisation de leurs relations et un traité de paix lors de la première visite officielle du ministre israélien des Affaires étrangères à Khartoum. Au cours de ce voyage politique historique, selon les termes de la diplomatie israélienne, les deux pays s'y sont mis d'accord pour avancer vers une normalisation des relations, a affirmé le ministère soudanais des Affaires étrangères. Le Zimbabwe a adopté une loi controversée qui vise, selon les critiques, à museler la société civile en plaçant les ONG sous la menace des sanctions sévères et d'un contrôle strict du gouvernement à quelques mois des élections générales. Le Sénat a voté mercredi soir ce texte déjà approuvé par l'Assemblée en décembre et que le président doit ratifier avant son entrée en vigueur. Ce vote intervient alors que les groupes de défense droits et partis d'opposition dénoncent une répression accrue du gouvernement contre les voix dissidentes en amont d'élections dont la date n'est pas encore fixée mais qui pourrait se dérouler en juillet.
L'invité
de Radio Okapi ce midi est l'aumônier des jeunes de l'Église catholique après la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Après la rencontre avec le pape François, Père Jean-Marie Roubacaré appelle ces derniers à faire un examen de conscience afin de rejeter les antivaleurs. Père Jean-Marie Roubacaré s'entretient avec Paul Matendo. Suivez.
Père Jean-Marie Roubacaré, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le pape François vient de s'adresser aux jeunes. Comment réagissez-vous à ce message?
Bien, le message du Saint-Père a été un message très piquant, très réaliste et très encourageant aussi. Quand il nous a parlé de cinq doigts et la valeur de cinq doigts dans la vie de l'homme, j'ai compris que l'essentiel c'est d'être unis, soudés et réconciliés aussi, sans oublier la force de la prière, sans oublier aussi l'acceptation de tout un chacun, sans oublier aussi que l'union fait la force.
Le Saint-Père a aussi insisté sur la lutte contre la corruption en RDC. Comment pensez-vous encadrer les jeunes pour éradiquer ces phénomènes?
Bien, au niveau de l'aumônerie nationale des jeunes, nous avons déjà des thèmes sur la lutte contre les antivaleurs. Il nous a parlé aujourd'hui de la corruption d'une façon forte. Il parlait de la corruption et de l'honnêteté. On ne peut jamais être honnête si on est corrompu. Si on est corrompu, on n'est pas sur la voie de Dieu. Voilà les mots qu'il a dit. Et moi, je crois qu'au niveau de la jeunesse, il faut que nous leur présentions la réalité de notre pays, les situations de corruption qu'eux-mêmes connaissent, qu'ils peuvent aussi décrire, et à la fin dire, faisons l'autocritique. Et c'est à base de l'autocritique qu'eux-mêmes vont dire, je renonce à ceci ou à cela.
Quels sont les défis majeurs auxquels font face les jeunes Congolais?
Et les grands défis, c'est d'abord, c'est vrai, le manque de respect de la vie, le manque de respect des dieux et le manque de respect de la famille. Pas tous, mais certains. Et alors, face à ces trois manques-là, ma force est laquelle a sensibilisé les aumôniers diocésains des jeunes afin qu'ils prennent en considération la situation de nos jeunes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. Elle est déjà l'aujourd'hui. En tant qu'aujourd'hui, nous devons lutter contre les antivaleurs, entre autres la corruption. Ça commence par des petits moments où un jeune peut se dire « Je te donne un beignet pour que tu puisses me faire passer la porte ». C'est déjà un mauvais signe. Ayant volé des petites choses, on va voler des plus grandes choses aussi. C'est ça. Donc, des petits signes qui peuvent les sensibiliser à leur niveau, à leur situation, à quitter ce milieu-là. Et là, j'ai déjà mes 5 modules de formation contre les antivaleurs. Et il y a un module sur la corruption.
Vous parlez des modules. De quoi s'agit-il exactement?
Bien, le premier module, c'est le respect de la vie.
C'est-à-dire?
Que les jeunes sachent que sa vie est sacrée. Qu'il ne peut pas se détruire lui-même. Il ne peut pas détruire la vie de l'autre. Deuxième module, le respect de la famille. Nous provenons d'une famille. Si on ne respecte pas la famille, on ne respectera jamais d'autres personnes. Le troisième module, c'est le respect de l'autre, celui qui n'est pas de ma famille. N'étant pas de ma famille, je dois le respecter et savoir qu'il a des valeurs et des antivaleurs aussi, ou bien des qualités, ce qui n'est pas qualité, et je dois l'accepter tel qu'il est. Et le quatrième module maintenant parle un peu du patriotisme. je dois aimer mon pays, je dois lutter contre ceux qui peuvent nuire à mon pays. Et le cinquième module qui est le sommet, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà un peu mes cinq modules pour lesquels je dois former la jeunesse pendant 7 ans.
Nous avons aussi entendu les jeunes demander au Saint-Père d'insister auprès des autorités congolaises afin de combattre le chômage. Votre réaction ?
Bien, c'est vrai, la jeunesse est en chômage. Comment faire le travail ? C'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Qu'on n'attende pas de dire « j'ai l'honneur, j'ai l'honneur ». Mais avec ma connaissance, nous mettons ensemble en tant que 3-4 jeunes. Qu'est-ce que nous voulons créer comme activité qui va nous rapporter de l'argent ? C'est ça l'entrepreneuriat que nous devons sauvegarder.
Père Jean-Marie Roubacaré, je vous remercie.
Merci beaucoup, chers journalistes.
À vos auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal, mis en onde par Mimi Kindou, Noëlla Luzitu, Martin Seboujang et l'ensemble de la rédaction l'ont préparé. Billy Ivan Tumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.